Et c'est l'heure du journal présenté ce soir par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. Elle jette l'éponge sans pour autant apporter son soutien à Donald Trump. Nikki Haley se retire des primaires du Parti républicain. Nous joindrons notre correspondant aux États-Unis, Sébastien Paour. Face au refus d'Israël de laisser entrer plus d'aide humanitaire à Gaza, les largages aériens d'aide se renforcent. Mais ce procédé n'est pas une vraie solution. Nous verrons pourquoi. Quand on gagne moins, on dépense moins. Bruno Le Maire justifie devant le Parlement les 10 milliards d'euros d'économies décidées pour 2024. Rosalie Lafarge a suivi l'audition du ministre à l'Assemblée. Aux élections européennes, la France insoumise rêve de rassembler les orphelins de la NUPES. Dans la liste conduite par Manon Aubry figurera notamment l'ancien eurodéputé vert Damien Carême, analyse de Sophie Delpont. Elle prend acte de sa défaite. Au lendemain du Super Tuesday, grande journée électorale où Donald Trump l'a emporté dans tous les États sauf le Vermont, la républicaine Nikki Haley annonce son retrait de la course à la présidentielle américaine. Ça n'est pas une surprise, mais on peut souligner, Sébastien Paour, que la seule adversaire qui tenait encore tête à l'ancien locataire de la Maison-Blanche ne s'est pas ralliée à son rival.
12 drapeaux américains derrière elle pour se donner une stature et prendre date pour l'avenir et 4 minutes de discours pour clore un an de campagne.
The time has now come to suspend my campaign.
Le moment est venu de suspendre ma campagne. Selon toute vraisemblance, Donald Trump sera le candidat républicain lors de la convention de notre parti en juillet. Je le félicite et lui souhaite bonne chance. Bonne chance, mais pas de ralliement pour l'instant, comme l'ont fait Ron DeSantis et les autres en se retirant de la course. Il appartient maintenant à Donald Trump de gagner les votes de ceux qui, dans notre parti et au-delà, ne l'ont pas soutenu. Et j'espère qu'il y parviendra. Et pour appuyer son propos, elle convoque l'ancienne première ministre britannique, Margaret Thatcher. Elle a dit, je cite,
«
Ne vous contentez jamais de suivre la foule. Il faut toujours se faire sa propre opinion.
Always make up your own mind. »
Dans des communiqués quasi simultanés, Trump, comme Biden, appelle les électeurs de Nikki Haley à les rejoindre.
Sébastien Paour à Washington pour France Culture. Le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir aujourd'hui en urgence pour discuter du chaos qui règne en Haïti. À Genève, le haut commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme précise que depuis le début de l'année, 1193 personnes ont été tuées à cause de la violence des gangs. La situation en Haïti, dit-il, est plus qu'insoutenable pour le peuple haïtien. Des groupes armés s'en sont pris ces derniers jours à des sites stratégiques du pays. Ils veulent renverser le Premier ministre Ariel Henry, qui est actuellement à Porto Rico. Il n'a pas pu rentrer en Haïti à l'issue de son déplacement au Kenya. Un déplacement, Valérie Crova, pour obtenir le soutien de la police kényane à son gouvernement.
Lorsque le Premier ministre haïtien Ariel Henry s'est rendu au Kenya la semaine dernière, c'était pour signer un accord sur l'envoi d'un millier d'officiers de police dans l'île, dans le cadre d'une mission internationale d'appui à la sécurité d'Haïti. Le Parlement kényan avait donné son feu vert avant que la haute cour de Nairobi ne s'y oppose, estimant que l'envoi de policiers kényans en Haïti était inconstitutionnel. Cette décision a retardé le déploiement de la force qui devait se faire initialement durant le premier trimestre 2024. Composé de 2500 hommes, à la fois des policiers et des membres des forces spéciales, cette force multinationale soutenue par les Nations Unies serait placée sous commandement kényan. 5 autres pays ont accepté d'y participer, le Bénin, les Bahamas, le Bangladesh, la Barbade et le Tchad. Financée en grande partie par les États-Unis, elle viendrait en soutien de la police nationale haïtienne pour combattre les bandes criminelles qui ont déclaré une guerre ouverte au gouvernement haïtien. L'une de ses missions, et non des moindres, serait d'obtenir un désarmement des gangs. On estime à 600 000 le nombre d'armes en circulation dans le pays.
Valérie Crova. Des chiffres terrifiants, commente l'Organisation internationale pour les migrations. Depuis 10 ans, l'OIM enregistre les décès et disparitions de migrants et elle constate qu'en 2023, au moins 8565 personnes sont mortes sur les routes migratoires à travers le monde. C'est donc l'année la plus meurtrière depuis le début des recensements. Nous devons nous engager à nouveau à prendre des mesures plus importantes pour garantir une migration sûre pour tous, déclare le directeur général adjoint de l'OIM, afin que dans 10 ans, les gens n'aient pas à risquer leur vie à la recherche d'une vie meilleure. L'afflux migratoire doit être davantage contrôlé aux yeux de la droite européenne. Réunis en congrès à Bucarest, les partis de droite et du centre-droit s'apprêtent à voter leur programme politique pour les 5 ans à venir. Et dans son manifeste pour les européennes, le PPE l'UPE, première force politique au Parlement européen, prône un transfert des demandeurs d'asile vers des pays tiers, Angélique Boin.
Nous plaidons pour un changement fondamental du droit d'asile européen, dit le document soumis au vote. Tout demandeur d'asile pourrait être transféré dans un pays extérieur à l'Union, considéré comme sûr, respectant donc les droits de l'homme, pour y effectuer ses démarches d'asile. Le PPE reprend une proposition de la droite allemande, dont est issue Ursula von der Leyen, une idée qui fait également écho au projet controversé des autorités britanniques visant à déléguer la gestion des migrants au Rwanda. Une politique qualifiée d'inhumaine et indigne en son temps par la commissaire européenne aux affaires intérieures, Ylva Johansson, mais qui devrait donc figurer au programme de la droite européenne, le PPE, qui s'apprête à désigner l'actuelle présidente de la Commission comme sa chef de file. Alors, Ursula von der Leyen sera-t-elle liée politiquement à ce manifeste ? Sur le papier, oui, mais dans les faits, le programme de la prochaine mandature fera l'objet encore de beaucoup de négociations entre les 27 capitales d'abord, mais aussi au sein du nouveau Parlement. Les futurs équilibres politiques, une forte poussée de l'extrême droite par exemple, auront une influence en proposant cette mesure. Choc. La droite européenne confirme en tout cas que l'enjeu migratoire est au cœur de sa campagne.
Angélique Boin à Bruxelles. Les pourparlers en vue d'une trêve à Gaza piétinent. Les États-Unis la réclament avec de plus en plus d'insistance. Ils ont aussi haussé le ton vis-à-vis de leur allié israélien pour qu'il laisse entrer plus d'aide à Gaza. Selon le Programme alimentaire mondial, la faim atteint des niveaux catastrophiques dans le nord du territoire palestinien. Alors, les largages d'aide humanitaire s'intensifient. Notre correspondant en Jordanie, Mohamed Erami, s'est rendu sur la base militaire Abdallah II de Malqa, à 30 km d'Amman, et il a pu suivre une opération de largage humanitaire à bord d'un avion de l'armée jordanienne.
Quelques heures avant le décollage, c'est le même rituel pour la trentaine de soldats de l'air de l'armée jordanienne. Avant l'opération de largage sur Gaza, plusieurs militaires inscrivent des petits mots sur les colis à destination des enfants de Gaza. Un des soldats jordaniens explique.
Alors j'ai écrit de la part de nos enfants aux enfants de Gaza, de la part de Fahad, de Rola, de Nordine, de Suleiman, de Ali. On dit qu'on pense à eux et on souhaite juste que nos voix les atteignent.
Dans les colis, il y avait des pâtes, du riz, mais aussi de la farine et des plats typiques palestiniens comme du maghloubé. Après presque 20 jours de largage, l'armée jordanienne a demandé l'appui logistique de l'armée française, émiratie, égyptienne et américaine pour disposer de plus d'avions et accroître le nombre de parachutages au départ d'Amman. Le lieutenant-colonel Rudy, un des responsables de l'armée française en Jordanie, explique.
Pour le coup, tout ce qui sera dans les boîtes a été donné par la Jordanie. C'est la Jordanie qui gère cette partie-là. Nous, on s'occupe du contenant et de l'avion pour permettre de le déposer sur Gaza.
Durant le vol qui a duré 2 heures, le pilote s'est dirigé vers les côtes de Tel Aviv dans un premier temps avant de longer la mer Méditerranée et prendre plein nord direction Gaza.
Ces largages se font depuis des avions jordaniens, américains, égyptiens et français. Mais ce type d'approvisionnement n'est pas une solution en soi, avertit Yves Denecher, professeur d'histoire contemporaine à l'Université d'Angers. Il mène des recherches sur l'histoire de l'humanitaire.
Les largages humanitaires d'urgence, c'est vraiment le dernier recours. En fait, quand il y a des situations humanitaires graves, de crise, évidemment que l'aide humanitaire, on l'a fait arriver essentiellement par la route. Ce n'est que quand les conditions ne sont pas réunies pour faire arriver cette aide humanitaire par la route qu'on utilise les largages aériens. Donc ça montre surtout qu'à Gaza, on est dans une situation d'urgence critique. On a commencé à utiliser les largages aériens à la fin des années 80, début des années 90. Donc on a désormais un peu l'expérience et on se rend compte que ce type d'aide humanitaire apporté par des largages, a beaucoup de limites. Un, il est d'un coût important. Deux, il entraîne dans les populations bénéficiaires beaucoup de bousculades, de panique. Et puis, de toute façon, ces largages sont souvent très insuffisants. Ça peut apporter une réponse très, très ponctuelle, mais ce n'est pas une modalité d'aide humanitaire qui peut être pérenne.
Yves Denecher répondait à Enora Moreau. Prise à la gorge par la crise économique, l'Égypte obtient un prêt supplémentaire du Fonds monétaire international. Il se monte à 5 milliards de dollars. Mais pour obtenir cette aide, le Caire a dû accepter le flottement de la livre et la monnaie égyptienne est actuellement en chute libre. Le gouvernement assume ses économies. Les ministres Bruno Le Maire et Thomas Cazeneuve ont été auditionnés cet après-midi par la commission des finances de l'Assemblée nationale et ils doivent maintenant s'expliquer devant celle du Sénat pour justifier l'annonce récente de 10 milliards d'euros de coupes budgétaires en 2024. Décidés pour tenir compte de la révision à la baisse de la croissance, ces 10 milliards d'économies actées par décret ont eu le don d'indigner une partie des parlementaires qui n'ont pas manqué de le montrer cet après-midi, Rosalie Lafarge.
Bruno Le Maire sort ses graphiques pour défendre ce plan d'économie.
Ça n'est jamais agréable, ni sympathique, c'est tout simplement nécessaire.
Son collègue à Bercy, Thomas Cazeneuve, le défend.
Dans une situation brutale de la conjoncture économique, c'était notre responsabilité que de prendre des mesures rapides.
Argument loin de convaincre les oppositions. Le président insoumis de la commission des finances, Éric Coquerel, dénonce la méthode.
Légalement, vous avez le droit. Simplement, je note une chose, c'est que c'est un record qu'on n'a jamais atteint. Il n'y a jamais eu d'annulation de crédit à la hauteur de 10 milliards sans projet de loi de finances rectificative.
La LR Véronique Louwagie pointe le manque de clairvoyance.
Cette annulation de 10 milliards d'euros dans le budget moins de deux mois après la promulgation de la loi de finances m'interroge de savoir, avec tout le respect que je vous dois, si vous avez agi comme des apprentis sorciers ou comme des autruches en mettant la tête dans le sable.
Conclusion du RN, Jean-Philippe Tanguy.
L'asile de nos comptes publics est visiblement tenu par les fous.
Face à un Bruno Le Maire qui riposte.
Il y a deux fils qui se touchent au Rassemblement national.
Mais sur le fond, Bercy à travers son ministre délégué aux comptes publics, Thomas Cazeneuve, confirme que ce n'est que le début.
Je dois vous le dire en transparence, pour construire le budget de l'an prochain et pour tenir notre objectif, que nous maintenons de ramener le déficit sous 3%, nous devons d'une part garantir que ces 10 milliards d'euros du décret d'annulation soient pérennes et d'autre part, plus vraisemblablement, porter notre effort de 12 à au moins 20 milliards d'euros d'économies supplémentaires pour l'année 2025.
Le gouvernement qui par ailleurs n'exclut pas un projet de loi de finances rectificative à l'été pour acter de nouvelles coupes budgétaires, même si à ce stade, assure Bruno Le Maire, aucune décision n'a encore été prise.
Rosalie Lafarge. L'assassinat de Samuel Paty en 2020 avait conduit à la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les menaces et agressions contre les enseignants. Elle vient de présenter ses préconisations pour défendre la laïcité. Elle la juge attaquée et veut prévenir de nouveaux drames vers Alul Dehrid.
Presque 20 ans, jour pour jour, après l'adoption de la loi sur l'interdiction des signes ostentatoires religieux à l'école, le sénateur LR François-Noël Buffet et celui du groupe Union Centriste Laurent Lafon dressent un tableau alarmant où l'école de la République est, selon leurs termes, en danger. Ils évoquent une hausse de la remise en cause des valeurs de laïcité dans les écoles. D'après leur rapport, deux tiers des établissements du secondaire déclarent au moins un incident grave en 2021 et en 2022. Ils insistent aussi sur le fait que leurs conclusions vont à rebours des idées reçues. Les problèmes d'irrévérence à la laïcité concernent tout le territoire. Un quart des enseignants dans les territoires ruraux y auraient déjà été confrontés. Enfin, les difficultés ne surviennent pas que dans les matières jugées à problème, comme l'histoire. Elles se posent aussi dans les cours de dessin ou de musique. Cette mission de contrôle créée par le Sénat met en lumière un fort décalage entre le principe de Jules Ferry et l'interprétation négative qu'en ont de nombreux élèves. Les deux sénateurs ont soumis 38 propositions pour mieux promouvoir la laïcité. Ils préconisent notamment de simplifier les recours en cas d'incident, d'harmoniser les sanctions au niveau national et de rompre avec ce qu'ils désignent comme l'idéologie du pas de vague en rappelant aux chefs d'établissement qu'ils ne sont pas évalués en fonction du nombre de signalements.
Aux élections européennes, la liste Alliance Rurale sera conduite par l'ancien député Jean Lassalle. Avec l'arrivée du Béarnais, qui a été deux fois candidat à la présidentielle, l'Alliance Rurale espère donner une nouvelle impulsion à sa campagne, plutôt poussive depuis son lancement début décembre. Le patron de la Fédération des chasseurs, Willy Schren, figurera, lui, en troisième position. Et puis la France Insoumise dévoilait aussi sa liste pour les européennes de juin prochain, une liste qui place en position éligible plusieurs déçus de l'absence d'une liste commune NUPES pour ces élections, Sophie Delpont.
La moitié des candidats en position éligible ne vient pas des rangs de la France insoumise. À l'image de l'eurodéputé sortant Damien Carême, en 8e place sur cette liste, l'ancien maire de Grande-Synthe avait claqué la porte des écologistes après avoir été placé en position non éligible sur la liste menée par Marie Toussaint. Le député insoumis Paul Vanier, responsable des élections au sein de LFI, souligne l'importance de ce ralliement.
Damien Carême fait un choix fort, un choix politique, le choix de soutenir le programme de la NUPES, la logique de la rupture à l'occasion de ces élections européennes. Et il participera à long terme à la construction de l'Union populaire et à la préparation des échéances à venir.
La tête de liste Manon Aubry a de nouveau lancé un appel aux orphelins de la NUPES, selon ses mots. Pour elle, la composition de cette liste doit convaincre au-delà de la France insoumise.
Je me suis battue depuis le début pour avoir une liste commune de la NUPES. Et au final, aujourd'hui, la liste qu'on présente est une liste commune de tous les croyants et pratiquants de la NUPES. Et il y en a, vous voyez, beaucoup, et ça va au-delà des rangs insoumis. Ce sont des gens qui vont porter le programme de la NUPES.
Aux côtés des eurodéputés LFI sortants, tels que Younous Olmarji, numéro 2 de la liste, et Leïla Chebbi, figurent aussi l'ex-coordinateur national du mouvement Génération, Arash Tahidi. On trouve également la juriste et activiste franco-palestinienne Rima Hassan en 7e position sur cette liste. En tout, la France insoumise a présenté les noms de 79 candidats. Ils doivent maintenant être validés par une votation des adhérents LFI avant la prochaine étape du lancement de la campagne, la convention du 16 mars prochain, où les deux derniers noms surprises de cette liste seront dévoilés.
Sophie Delpont. À l'approche de la Journée internationale des droits des femmes, l'Observatoire de l'égalité entre femmes et hommes dans la culture et la communication publie son 12e rapport annuel. Patrimoine, création artistique, spectacle, cinéma, audiovisuel, le ministère de la Culture a scruté plus de 700 indicateurs. Il conclut que l'égalité hommes-femmes s'améliore dans les métiers de la culture en France, mais ces progrès ne sont pas homogènes, Pierre Ropert.
Ce sont des indicateurs qui pointent dans l'ensemble vers un mieux. 42% de femmes à la tête des centres dramatiques nationaux contre 29% il y a 4 ans, la moitié de femmes à la tête des directions régionales des affaires culturelles contre un quart en 2020. Pour Sylvie Pierre-Brossolette, présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, il faut saluer une véritable volonté politique.
Les ministères ont voulu nommer des femmes pour compenser le déficit incroyable qu'il y avait. Il n'y avait aucune raison qu'il n'y ait pas la moitié de femmes à la tête des DRAC. On y est, c'est une très bonne chose et j'incite tous les ministères à en faire autant parce que ce n'est pas le cas partout.
Dans le secteur culturel public, près de la moitié des emplois sont désormais occupés par des femmes. Certains domaines, en revanche, progressent bien moins vite. Les femmes continuent ainsi de gagner moins que les hommes, l'écart de rémunération maximum se trouvant dans le domaine de la distribution cinématographique avec 23%. Dans les projets de création culturelle, les femmes sont également dotées de moins de moyens que les hommes, comme le regrette Sylvie Pierre-Brossolette.
Il n'y a plus aucune raison de se dire « oh ben c'est une femme, elle ne va pas être très ambitieuse, on va faire une petite expérience et donc on lui donne des petits moyens ». Non, petit et femme ne doivent plus rimer, elles doivent avoir autant de moyens que les hommes et il faut donc que le ministère de la Culture, à tous les niveaux, ne fasse pas de différence entre des créateurs et des créatrices.
Si le secteur public témoigne de très nets progrès en l'espace de quelques années, le secteur privé, lui, reste à la traîne. En 2023, en France, seuls 15% de femmes occupaient la direction des 100 plus grandes entreprises culturelles.
Pierre Ropert, la métropole de Lyon dit vouloir mettre en place une tarification progressive et solidaire de l'eau potable. Un an après le passage de l'eau en régie publique, la métropole, dirigée par les écologistes, annonce sa nouvelle tarification qui entrera en vigueur le 1er janvier prochain. Gratuité pour les 12 premiers mètres cubes par an, prix normal pour une consommation dite raisonnable, tarif doublé pour une consommation élevée et réduit pour les foyers précaires, Christophe Vincent.
Inspirée d'expérience à Dunkerque ou à Grenoble, la deuxième agglomération française assume un choix politique avec des tarifs solidaires et responsabilisants. Objectif prioritaire, réduire de 15% la consommation d'eau d'ici à 2035. Le président vert de la métropole, Bruno Bernard.
L'eau est une ressource rare. Le Rhône, qui nous alimente en eau potable, qui alimente nos champs captants, va perdre 20% de son débit d'ici 2050. Donc dans notre politique de préservation de la ressource en eau, il y a aussi la sobriété, donc encourager les habitants à consommer moins et les accompagner pour ça.
Les collectifs d'usagers sont impliqués. Lucien Angeletti de l'association Eau Bien Commun.
Pour moi, la question, c'est le droit à l'eau. Les 12 mètres cubes d'eau gratuits rentrent bien dans ce principe de l'universalité. Donc c'est bien pour tout le monde. C'est une notion de service public, en fait.
30 litres par jour, gratuit, 400 litres au prix normal, les Lyonnais sont sceptiques.
Ce n'est pas des réflexions ponctuelles qui peuvent apporter une solution. Qu'en est-il après des canots à neige pour aller faire du ski?
Qu'est-ce que ça veut dire trop consommer? Moi, je suis seule et je ne peux pas plus réduire ma conso. Donc, si les prix augmentent, à un moment donné, ça va poser problème. On a chacun notre type de consommation et c'est difficile de se dire on va réduire si on fait déjà le minimum. Et tant qu'on ne reçoit pas la facture, on ne peut pas savoir. On nous demande de faire attention à l'environnement. Après, à quel prix?
Chat échaudé craint l'eau chère.
Christophe Vincent, à Lyon. La nouvelle tarification doit encore être validée lors du prochain Conseil métropolitain. Sachez que Emmanuel Macron s'est dit favorable aux tarifs progressifs de l'eau pour préparer le pays aux sécheresses causées par le réchauffement climatique. Il y aura du soleil demain matin, puis alternance entre éclaircies et passages nuageux. Côté température, de faibles gelées seront fréquentes sur une bonne moitié ou est du pays. Ailleurs, les minimales seront comprises entre 0 et 7 degrés. L'après-midi, il fera 9 dans le nord-est, jusqu'à 20 au sud de la Garonne. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.